Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6h avant minuit, c'est l'émission quotidienne d'infos locales de Syllab, radio rennaise à écouter sur le 88.4 FM ou en DAB+. Du lundi au jeudi à 18h, d'octobre à juin, l'équipe de la rédaction de la radio sauvage décrypte l'actu de chaque jour, 6h avant minuit. Le lendemain, cet été, on vous propose de réécouter les chroniques de la saison radiophonique passée. Aujourd'hui, compile des chroniques les volcaniques d'Enora, où il est question des meufs et de leurs espaces. Oui, c'est la toute première. Alors, ces prochaines semaines, dans les volcaniques, il sera question de nous, les meufs et de nos espaces. Ce qu'on se crée, ce qu'on arrache, ceux dans lesquels on s'impose et on prend la place. L'espace de ce soir, je garde un peu le suspense, j'y suis rentrée par un film. Une héroïne paumée, obligée d'accepter des concours de beauté sous la pression de sa mère, mais qui, un jour, par le plus grand des hasards, découvre l'existence de cet endroit.
Qu'est-ce que c'est ? Une course de roller ?
Bienvenue à la nuit du roller !
Je voulais juste vous dire que vous êtes mes héroïnes.
Bah, enfile des rollers et deviens ta propre héroïne.
C'est pas mal, Barbie.
Soyez prêts à rencontrer votre mascotte, Barbie Détroit.
Si certaines ou certains l'ont reconnu, le film, c'est Bliss, de Drew Barrymore, sorti en 2009. Et l'endroit, c'est celui du roller derby.
Quel chef-d'œuvre.
Alors, pour celles qui ne connaissent pas ce sport... Pas de crainte, même le vendeur de Decathlon n'avait pas la moindre idée quand je me suis pointée pour acheter l'équipement il y a un an. Pour vous le définir, je vais reprendre les mots qu'une joueuse m'avait dites. Le roller derby, c'est comme du rugby, mais sur patin. Et c'est plutôt ressemblant. C'est un sport physique et tactique qu'on joue sur une piste ovale. Il y a deux équipes qui s'affrontent, dans le but de faire passer une des leurs à travers le peloton adverse. C'est celle avec un casque étoile. Et c'est comme ça qu'on marque des points. Jusque-là, c'est assez simple, mais en vrai, c'est pas si simple. À en voir le groupe Discord de mon équipe et les soirées règles organisées tous les mois. Mais la base, c'est ça. Pour son histoire, c'est un sport qui est né aux États-Unis, dans la région de Chicago, en 1920. Et c'est dans les années 2000 que la première ligue moderne est créée par des femmes au Texas. Il est arrivé en France dans les années 2010, et depuis 15 ans, il fait que se déployer un peu partout. Le roller derby, c'est un endroit où on peut revendiquer son agressivité et sa force, où on se sent safe et pas jugé sur nos corps. C'est un sport féministe et inclusif, où qui que tu sois, d'où que tu viennes, tu peux te redéfinir. Parce que même si c'est un sport de contact et que tu es obligé de porter une panoplie de protection, souvent, derrière, ça cache des tenues qui claquent. Et bien sûr, comme dans Bliss, tu dois choisir un nom de scène, c'est ton derby name.
C'est quoi ton derby name ?
La butée. Parce que moi je bute mais avec amour. Alors du coup pour les matchs j'ai acheté un short avec Chucky derrière qui a un couteau ensanglanté.
Ça fait combien de temps que tu fais du derby ?
Ah, c'est ma deuxième année. Chacun va à son rythme. Toutes les morphologies sont acceptées. Et ça c'est moi avant que je faisais de la capoeira. Et du coup, je voulais un sport bizarre, que personne ne fait, personne ne connaît. Du coup, j'ai trouvé ça.
Là, vous kiffez les matchs ?
La première année, tu sais, on ne fait pas de match avant mai. Et du coup, on était là en train de les encourager et tout, et ça donnait trop envie. Et puis là, c'est déjà la fin de la journée. En fait, du début à la fin, tu n'as pas eu le temps de voir les 4 matchs qui sont passés, mais tu es tellement à fond dedans.
Alors, à défaut de pouvoir assister à un match, à partir de mercredi et jusqu'à vendredi soir, se joue Derby au TNB. Une pièce construite à partir d'histoires personnelles et interprétée par 6 femmes et personnes non binaires. Yael pratique le roller à haut niveau et montre, dans cette performance, comment ce sport de contact peut agir comme un révélateur intime pour celles qui le pratiquent. Derby est proposé au public à partir de 14 ans et c'est une super occasion de découvrir ou pas cette discipline. En tout cas, moi, j'y serai.
Bah, merci Nora, à bientôt pour un nouvel épisode oui des Volcaniques.
6 heures avant minuit.
Un nouvel épisode des Volcaniques avec Enora.
Oui. Dans cette deuxième des Volcaniques, pour celles qui la découvrent aujourd'hui, dans cette chronique, je parle de nous, les meufs, et de nos espaces, ceux qu'on se crée, ceux qu'on arrache, ceux dans lesquels on s'impose et on prend la place. Aujourd'hui, on déchausse les patins à roulettes et on s'en va sur la côte, où samedi soir s'est clôturée la 78e édition du Festival de Cannes. Dans la journée, Mediapart titrait. Le Festival de Cannes serait-il devenu féministe ? Un vent glacial a aussitôt soufflé sur la croisette, les nœuds papes se sont agités mais pas de panique, ce n'est pas vrai, le patriarcat peut respirer. Alors oui, des choses sont en train de se mettre doucement en place, des acteurs mis en cause pour violences sexuelles sont par exemple interdits de monter des marches, mais à côté de ça, la parité, comme d'autres revendications, sont encore loin d'être gagnées. Pas le choix, il faut continuer de lutter et un prix à Cannes le défend justement, cette lutte. Son affiche nous fait remonter le temps. On est en 2020, 50 ans après les émeutes de Stonewall et la première marche des fiertés. C'est aussi l'année du Covid et des confinements interminables. C'est dans ce contexte que la photographe Marie Rouge capture cette foule. Une foule multicolore au point levé, jaillissante de détermination et de colère. 5 ans plus tard, en 2025, cette image devient l'affiche de la Queer Palm du Festival de Cannes. Chaque année, depuis 2010, la Queer Palm récompense un film pour son traitement des thématiques LGBTQIA+. Des films qui ont reçu ce prix, il y a eu par exemple 120 battements par minute du réalisateur Robin Campillo ou encore Portrait de la jeune fille en feu de la réalisatrice Céline Sciamma. Cette année, 16 longs métrages et 4 courts métrages étaient en compétition. La remise des prix a eu lieu samedi, veille du palmarès officiel, et c'est le film La petite dernière, le 3e long métrage de la réalisatrice Afsia Herzi, qui l'a remporté.
Je sais pas, on sort un soir toutes les trois. On va s'amuser.
Faire.
Vas-y toi, pourquoi faire? Arrête ton blabla là. C'est bon, je sais ce que c'est de pas s'assumer, de pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment faut vivre, non? Ce serait notre petite Joconde. Moi je serais Cassandra da Vinci. C'est quoi un cœur brisé? C'est quoi? Moi je te recoue ton cœur, moi.
Je dis que de la merde.
Je suis bourrée. Je suis trop bourrée.
Adapté du roman éponyme et autobiographique de l'autrice lesbienne Fatima Das, le film nous plonge dans l'intimité d'une jeune femme, Fatima. Elle est musulmane et lesbienne et elle se retrouve partagée entre son désir d'émancipation et le poids des traditions familiales. L'actrice principale, Nadia Meliti, a le lendemain remporté le prix d'interprétation féminine pour ce rôle. Que ces films existent et soient aujourd'hui sélectionnés dans des grands festivals de cinéma comme à Cannes sont le petit signe que ça avance, qu'un peu de place se fait. Mais derrière cette place, aussi mince soit-elle, ce sont des réalisatrices qui se battent contre des logiques patriarcales et capitalistes pour que nous, spectateuristes, ayons accès à ces histoires. Et tout se joue au moment des financements. Afsia Herzi n'a cessé d'en témoigner tout le long du festival. Parce que son film touche au sujet de l'homosexualité et de la religion, beaucoup d'actrices et de productrices se sont retirées. Pour Anna Cazenave-Campbell, la réalisatrice de Love Me Tender, l'un des deux autres films lesbiens de la sélection, c'est à cet endroit qu'une vraie bataille est à mener.
Moi, je veux qu'on fasse un peu attention à... Je sens cette tendance-là sur ce qui se passe sur le festival, à dire c'est génial, on fait des films lesbiens, on a une visibilité, etc. Oui, c'est génial. C'est génial notamment pour les spectateurs, parce qu'on fait des films pour les spectateurs et que... L'idée que des jeunes femmes, des jeunes hommes puissent s'identifier à des personnages différents, c'est, je pense, une des raisons de faire du cinéma. Mais je pense qu'il ne faut pas omettre la difficulté de produire ces films et la difficulté de les défendre et de les financer.
Pendant encore quelques temps, il nous faudra s'obstiner pour exister. Mais le 16 mai, dans l'immense salle comble du Grand Théâtre Lumière, les spots doucement se rallument et les applaudissements résonnent. Alors Afsia Herzi, la réalisatrice, dit un mot, émue. Puis, le micro part dans les mains d'une de ses actrices.
Merci à tous. Mais on est trop contentes. Voilà, c'est trop bien. On est trop contentes. Et je veux dire quelque chose.
On voulait qu'on dise 1, 2, 3, vive les lesbiennes tous ensemble.
1, 2,
2, 3, vive les lesbiennes !
La petite dernière, ça sort au cinéma le 1er octobre prochain et il faut y aller le voir.
Merci Nora, on te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Volcaniques.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
Et Nora est de retour pour sa chronique, ça s'appelle Les Volcaniques. À toi Nora.
Et oui, déjà la troisième des Volcaniques. Mais que le temps passe vite. La chronique où je parle de nous, les meufs, et de nos espaces. Ceux qu'on se crée, ceux qu'on arrache, ceux dans lesquels on s'impose et on prend la place. Il y a 2 semaines, pendant un flash, je vous parlais de la mobilisation contre l'Empire Bolloré. Les collectifs des soulèvements de la Terre et de lever les voiles lançaient un appel à rejoindre une flottille en mixité choisie. Ici, sans hommes cis. Se réunir entre personnes appartenant à une ou plusieurs minorités opprimées et discriminées, en exclure la participation des personnes appartenant à ces groupes pouvant être oppressifs et discriminants, c'est ça la mixité choisie. Et si ça n'a pas été forcément nommé comme tel, ça fait longtemps que lutter de cette manière, ben ça existe. Et ça m'a fait penser à cette occupation du début des années 80 en Angleterre.
When we first went to cut the fence, you know, we had no idea what would happen.
C'est la guerre froide et les États-Unis obtiennent l'autorisation de stocker des têtes de missiles nucléaires sur la base de Greenham Common, à l'ouest de Londres. Pour protester contre cette décision, un groupe de 36 personnes, surtout composé de femmes, engage le 5 septembre 1981 une marche pour la paix depuis Cardiff, au Pays de Galles, jusqu'à la base de Greenham. Sur place, le débat qu'elles demandent leur est refusé. Alors elles décident d'occuper les lieux. Au début, le camp est encore mixte, mais très vite, elles instaurent la non-mixité. Et pendant 20 ans, elles sont des milliers à se relayer pour occuper les lieux. Les médias de l'époque parlent d'elles comme des folles, des mères indignes, des pauvres lesbiennes. Elles sont réprimées, violentées, emprisonnées, mais depuis le début, elles font le choix de la non-violence. Dans cette archive, elles chantent assises par terre, se tenant les bras les unes des autres. En face d'elles, des policiers. En ligne, en ordre, ils quadrillent. Ils les séparent, les traînent, souvent par les cheveux, pour les enfermer jusque dans leur camion. Sauf que la puissance militariste phallocrate sous-estime la bande de meufs à laquelle ils font face. Dès qu'une rangée est démantelée, une autre se reforme aussitôt, et elles sont des centaines. Le 12 décembre 1982, des milliers de femmes venues de tout le pays affluent sur le camp. Elles sont 30 000 ce jour-là. Et leur action, se tenir la main et encercler les 24 km de Greenham. Sur des photos, elles dansent sur les silos des missiles. Sur d'autres, elles crochettent des fils de laine sur les grillages de la base militaire. De cette occupation, il reste des photos donc, mais aussi un tas d'enregistrements sonores et vidéos. Un film posthume, des femmes face aux missiles de Sonia Gonzalez, et des chants, beaucoup de chants, qui se font la mémoire de ce moment.
The line extends all around the 9-mile fence.
30,000 women chant, bring the message home. Carry Greenham home, yes, near home and far away. Carry Greenham home.
En 1991, les missiles nucléaires sont retirés et les femmes de Greenham deviennent le symbole de la résistance au patriarcat. Cette mobilisation marque aussi les débuts d'un mouvement écoféministe mondial. Lutter en mixité choisie, partager des expériences communes, créer un espace d'échange et de partage safe, ça peut sauver, vraiment. Mais pour autant, est-ce que ça en fait des espaces exempts de tout schéma de domination sociale ? Et est-ce que dans le récit qu'on en fait, on en parle de cette discrimination qui persiste ? Je n'en ai rien trouvé sur Greenham Common, mais sur d'autres mouvements, aussi en mixité choisie, ils ont été dénoncés. Et ça concerne surtout le récit qu'on décide de retenir, la manière dont on les représente, quels imaginaires on garde et on perpétue. Et ça, ça a à voir avec le cinéma. Avant Greenham, il y a eu les suffragettes, un mouvement féministe qui a permis aux femmes britanniques d'obtenir le droit de vote en 1915. Et un film est sorti, en 2015. À l'intérieur, toutes les personnages sont blanches. Sauf que dans la réalité historique, Beaucoup de militantes ne le sont pas. La réalisatrice alors justifiée par un « on ne peut pas tout dire ». Mais pour l'historienne Hélène Canquin, le problème, c'est que ce « on ne peut pas tout dire », eh ben, ça exclut souvent les mêmes personnes. Le mouvement féministe s'est institutionnalisé et construit autour de femmes blanches. Et il est temps que ce whitewashing cesse, vraiment.
Merci Nora, à la prochaine pour un nouvel épisode des Volcaniques.
Oui.
Avant minuit.
Et c'est l'heure de la chronique d'Enora, les Volcaniques.
Et oui, et c'est déjà l'avant-dernière chronique Sniff, la chronique où je parle de nous, les meufs, et de nos espaces. Ce qu'on se crée, ce qu'on arrache, ce dans lesquels on s'impose et on prend la place. Et il y en a un dans lequel j'ai mis du temps à prendre ma place. Depuis que j'ai commencé mes études de cinéma, il y a un endroit duquel j'ai toujours cherché à m'extraire. La place de technicienne, je n'en voulais pas. Puis cette année, j'ai plus eu le choix. Il n'y avait que moi et il allait falloir que je la prenne, cette place. Ça m'a questionnée, beaucoup. Pourquoi je ressentais une telle crainte? Pourquoi je me sentais si incapable? Pourquoi ça me paraissait être un monde de faire fonctionner un enregistreur, une caméra ou une table de mixage? Et est-ce que j'étais la seule meuf à ressentir tout ça? Alors je suis allée enregistrer mes amis pour leur poser la question.
Quel est ton rapport à la technique, Olive?
En fait, j'arriverai pas trop à définir exactement mon rapport à la technique parce que j'ai l'impression qu'il change beaucoup.
Mon rapport à la technique, je pense qu'il a évolué aussi avec ma construction personnelle.
Du coup, moi, j'ai commencé à apprendre en allant aux Beaux-Arts. J'ai appris beaucoup par moi-même avec des tutos sur Internet, quoi.
Mon premier rapport, c'est quand il a fallu que je construise une maison. Et c'est la première fois que je me suis retrouvée devant des outils, devant de la matière.
J'ai l'impression qu'avant, je me disais que la technique était quelque chose de très obscur, que quand on m'expliquait, les mots étaient très complexes et je me disais que j'allais jamais réussir à atteindre quelque chose qui ressemble à une maîtrise à peu près globale des outils.
Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de mal avec la technique et je me disais que c'était pas fait pour moi.
Dans ma vie, il y a eu que des hommes qui m'aient appris des trucs et j'avais l'impression qu'ils faisaient un peu exprès de faire des trucs compliqués.
Toujours un peu l'impression de te faire engueuler à moitié parce que t'arrives pas trop à comprendre certains trucs.
Mais après, c'est un ressenti que j'avais sur plein de domaines. Du coup, j'étais là, bon.
Parce que je suppose aujourd'hui que c'est une construction sous notre merveilleux système du patriarcat.
On va me dire que je lui mets tout sur le dos au patriarcat, mais dans les discussions qui se sont engagées, c'est beaucoup de ça dont il a été question. De nos imaginaires et de nos possibilités d'identification, de nos éducations aussi, souvent genrées, et de nos curiosités, attisées ou non. La mienne, j'ai soufflé dessus. Je suis allée voir Clotilde, ça fait longtemps que sa maison est construite et qu'à côté, elle travaille comme régisseuse son. Elle est facile à reconnaître, elle porte un t-shirt jaune avec inscrit « La régie, c'est pas ta mère ». Je suis allée la voir parce qu'il y a quelques mois, j'ai dû apprendre à faire de la radio. Sauf qu'on dirait que pendant la formation, l'instructeur avait envie de garder son pouvoir. Alors j'ai peu appris, et c'est Clotilde qui m'a montré. Elle m'a expliqué et réexpliqué, mais surtout elle m'a laissé faire. J'ai fait de mes mains et j'ai essayé d'attraper la liberté dont elle m'avait tant parlé. Mais même compétente, on fait face à un autre prisme du sexisme.
Quand j'ai besoin d'acheter un truc, par exemple, j'ai besoin d'acheter du matériel. Par exemple, j'ai besoin d'acheter une bonnette pour protéger mon micro. Et j'ai toujours une angoisse terrible d'aller dans le magasin de son. Parce que, en fait, c'est toujours des mecs. Et que je me renseigne toujours un maximum sur ce que je vais prendre. Je veux tel truc. Je veux pas que tu m'expliques deux choses. Je suis obligée de me préparer mentalement. Parce que sinon, c'est toujours un moment terrible où... Il y a un mec qui va me dire « Mais c'est pas du tout ça que tu dois prendre, tu devrais prendre ça. » Et une fois même, un mec qui m'a dit « Ça n'existe pas ce que tu veux. » Alors que je savais que ce truc existait. Et du coup, j'ai dû aller dans un autre magasin. Et à chaque fois, j'ai des sueurs en me disant « Ça va être un moment terrible où on va vouloir m'expliquer comment faire mon taf. »
C'est Iris, une podcasteuse aguerrie qui m'avait raconté ce vécu. 3 jours plus tard, je le vivais aussi, ce sexisme. Avec Léa, une amie, il fallait qu'on installe notre studio radio dans un nouveau lieu. Sauf que le technicien sur place a refusé de nous faire la transmission, à nous, et a attendu de parler avec un de nos collègues, un homme. C'était tellement ridicule de le voir bondir sur lui, à peine il avait fait un pas dans la pièce. Le rapport à la technique, ça vient toucher aux questions d'éducation, de confiance en soi et d'apprentissage. Mais ça concentre, aussi et surtout, de la dépendance et du pouvoir. La technique, c'est un vrai pouvoir. Et comme tous les pouvoirs, il ne doit pas être aux mains d'une poignée de gens, mais appartenir à tous.
Merci Nora.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique et ce soir, c'est les volcaniques avec Enora pour une toute dernière fois déjà.
Oui, pour cette dernière des volcaniques, eh ben, je me suis mise en quête de celle qui avait raconté avant moi. Celle qui s'était emparée des outils radiophoniques pour donner de l'écho à nos voix. Sans doute le besoin de me raccrocher ou de m'identifier. Alors j'ai remonté un peu le temps et je suis tombée sur elle.
Ce sera tout à fait... de la musique. Ce ne sera rien. Rien que des mots. Des mots. Des mots. Comme à la radio.
Bravo, vous nous avez trouvés. Ici Radio Pleine Lune, une radio pirate de femmes. Sur FM, entre 100 et 104, Radio Pleine Lune.
Une brise de sarcasme, un vent de révolution, un désir profond d'émancipation. Je vous présente Radio Pleine Lune, une émission féministe qui a émis tous les mercredis sur les ondes de Radio Zone à Genève entre 1981 et
Radio
1999.
Pleine Radio Pleine Lune. Radio Pleine Lune, tous les 28 jours.
Tous les 28 jours.
Cette émission, elle naît à un moment où le mouvement social des années 1968 est en déclin. Et le mouvement de libération des femmes de Genève, alors intensément actif depuis 1971, n'est malheureusement pas épargné. Les actions politiques diminuent, les militantes se fragmentent en groupes de travail et désertent les assemblées. Et le mouvement, bah, il peine à recruter. C'est aussi un moment de transition où la contestation féministe change de forme. L'État commence à s'emparer de ces questions en finançant par exemple des bureaux de l'égalité. Et les partis politiques comme les syndicats mettent notamment en place des commissions sur ce sujet. Alors des organismes émergent, les groupes de travail se multiplient et le mouvement de libération des femmes continue de se disperser. Et à cette dispersion s'ajoutent des divergences internes sur la marche à suivre. Pour certaines, il faut emprunter une voie politique avec des objectifs socialistes précis. Pour d'autres, il faut sortir du système. Et ce sont elles qu'on a appelées les radicales qui ont créé Radio Pleine Lune. Conscientes de leur sous-représentation médiatique, elles entendent être un espace de parole pour celles qui ne l'ont jamais. En bref, comme elles l'écrivent dans leur tract de présentation, elles sont déterminées à faire une émission sans mal, sans regret, sans technicien et sans censure. Une radio politique et libre, donc, mais surtout pirate.
Alors l'histoire de la pleine lune, c'est une histoire qui est très très vieille maintenant. On pourrait dire qu'elle a commencé en 76. En 76, à Genève, il y a eu la première radio pirate. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la radio 101. Les vieux s'en souviennent sûrement, parce que ça a été un moment absolument mémorable. La ville s'était parsemée d'affichettes qui disaient, eh bien, à partir de 8h, vous écoutez 101. Et une radio pirate s'est fait entendre. Pirate parce qu'à l'époque, il y avait un monopole total des ondes. Il n'y avait que l'État qui pouvait émettre. Il n'y avait absolument aucune radio associative ou radio privée. Et cette radio, dans cette radio pirate, il y a eu une émission de femmes. Je me souviens encore que nous l'écoutions dans le centre femmes occupé, cette rue des Grottes. Donc c'est vraiment un moment important. Et puis en 79, quelques femmes se sont réunies en décidant de faire, en exprimant l'envie de faire une émission régulière de femmes sur comme radio pirate, puisque à l'époque, toujours, les radios associatives étaient interdites. L'idée, bien sûr, c'était un gros boulot, un gros investissement. Déjà, techniquement, il fallait apprendre à émettre, avec toute une série d'aventures, parfois assez...
C'est pas la moindre des choses.
Si ce n'est pas scabreuse. Et puis...
Ensuite, dans les bois, avec les télécoms de l'époque qui poursuivaient les émetteurs.
Et d'autres aventures. Et l'idée étant d'émettre... avec une radio et surtout une radio pirate, se pose toujours le problème de la régularité, puisque on ne peut pas toujours fixer les rendez-vous. Donc on avait dit, eh bien faisons-le tous les 28 jours. Finalement, chaque fois la lune est pleine, on émettra. Et la radio s'est appelée Radio Pleine Lune pour cette raison, elle émettait tous les 28 jours. On voulait le faire au début chaque fois qu'on avait nos règles, mais comme ça a été assez irrégulier, on a finalement décidé que ce serait les jours de pleine lune.
Les animatrices de l'émission l'ont beaucoup raconté, leur émergence dans ce contexte de monopole des ondes. S'imposer, arracher sa place, défier l'autorité avec les risques inhérents que cette résistance se voit tue. Et à l'écoute de leur voix, elles posent aussi ce qui fait, pour moi, leur identité. Et au cœur de celle-ci résonnent ces mots. Expérimenter et créer. On en parlait la semaine dernière, mais ici, la technique, elles ne l'ont pas encore, mais tant pis, elles apprennent sur le tas. C'est fragile, mais ça a l'air joyeux. Alors, elles se sont moquées des gris convenus, elles ont assumé leur position, traitant des sujets qui les importent, les questionnent et les révoltent. Radio Pleine Lune, c'est l'archive de 20 ans de lutte, une lutte sans frontières.
Alors, ça vient du fait qu'on était des jeunes femmes engagées, militantes, et qu'on pratiquait l'intersectionnalité bien avant que le mot existe. On avait cette vision, voilà, on était solidaires avec ce qui se passait dans le sud global, on était aussi solidaires avec les squatters, on était aussi solidaires avec les luttes des femmes, les lesbiennes qui commençaient à s'organiser. Donc pour nous, c'était tout ce qu'il y a de plus normal.
Pour elles, c'était tout ce qu'il y a de plus normal. Elles ont prouvé l'importance de garder nos mémoires, de témoigner de nos vécus par tous les moyens. Dire la colère là où ça brûle, là où ça vibre, dire les liens qui réparent et la puissance de le faire ensemble. Dire la détermination et qu'on ne s'arrêtera pas. Il y a 44 ans, elles ont ouvert une brèche radiophonique. Depuis, on ne cesse de la maintenir ouverte. Alors merci Héloïse d'avoir offert ce micro au volcanique.
Merci à toi Enora, tu reviens quand tu veux hein, pour poursuivre ta chronique et merci pour la découverte de ce projet un peu witchy je trouve hein, quand même, j'adore.
Si la lune, la radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.